Mon épouse et moi rentrons d'un long voyage qui nous a conduit à travers tout le continent nord-américain pour différentes raisons et qui nous a permis de découvrir tout un tas de paysages, certains inconnus, d'autres plus connus. Et j'ai gardé à l'esprit certaines régions particulièrement désertiques que nous avons traversées. Des endroits, on dirait, c'est pas le bout du monde, mais on peut le voir depuis là. Personne n'habite quasiment. On a l'impression d'être vraiment perdu très loin. Il n'y a rien, il n'y a pas d'arbres, il n'y a personne. C'est le désert. Et tout d'un coup, au bord de la route, on voit ce panneau. Dernière station service avant tant de kilomètres. Et automatiquement, on regarde la jauge d'essence et on se dit, voyons, est-ce que j'ai assez d'essence pour aller à la prochaine station qui est dans beaucoup de kilomètres ? Est-ce que j'ai assez d'essence pour aller jusque-là ? Et on se dit, on ne va pas prendre de risque, on va s'arrêter puis on va faire le plein avant de traverser cette zone où il n'y a pas de station d'essence. Et puis on continue le chemin. Et puis quand on arrive dans le dernier bout, un peu avant d'arriver à la maison, c'est tard, c'est le soir, déjà certaines stations sont service, sont fermées, on regarde la jauge d'essence et on se dit, mais est-ce que j'arrive à la maison avec ce que j'ai d'essence ? Il m'en reste encore, mais je vais peut-être faire le plein pour être sûr d'arriver jusqu'à la maison. Et en voyant ça, j'ai pensé à notre marche chrétienne, parce que finalement, nous sommes en tant qu'Église, en tant qu'individu, en marche vers le royaume des cieux. Et je me pose la question, est-ce que nous avons assez d'essence pour arriver jusque-là ? Est-ce que nous avons assez d'essence pour remplir la mission que nous avons à remplir ? Est-ce que nous avons assez d'essence pour que le travail qui doit être fait en nous soit fait ? Le chemin est encore long, on s'en rend compte. Et parfois, le chemin est plus long qu'on pense. Alors on est en danger de manquer d'essence, manquer de courage, manquer de persévérance, manquer d'énergie. La plupart des chrétiens ont toujours pensé que Jésus allait revenir beaucoup plus tôt. Et nous aimerions penser que Jésus va revenir de notre vivant, ce qui est tout à fait possible, mais nous ne savons ni le jour ni l'heure. Mais finalement, le chemin a paru toujours beaucoup plus long qu'on pensait. Beaucoup de nos parents, spirituels aussi, se sont endormis étant convaincus que Jésus reviendrait de leur temps. Mais le chemin est un peu plus long qu'on ne pensait. Alors est-ce qu'on va manquer d'essence pour arriver au bout du compte ? Est-ce qu'on va avoir assez d'énergie, de persévérance, de ressources pour remplir cette mission que nous avons, même si le voyage est un peu plus long et plus difficile qu'on avait pensé au départ ? L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Hébreux, encourage les gens de son époque à persévérer et à ne pas manquer d'essence, à être sûr d'avoir le plein pour arriver au bout du chemin. Regardez avec moi ce texte, voulez-vous, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. À partir du verset 35, il est écrit ceci. « N'abandonnez donc pas votre assurance » à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous avez besoin de persévérance, dit l'apôtre Paul. Le chemin va être un peu plus long, mais le maître ne tarde pas. Attendez, il va venir, c'est sûr. Est-ce que nous avons le plein d'essence pour accomplir en particulier la mission qui nous est confiée ? Quand on regarde les chiffres qui sont relatifs à la croissance de l'Église mondiale, on est encouragé. On est encouragé parce qu'on pense, en 1863, lorsque l'Église adventiste s'est organisée, il y avait en tout et pour tout dans le monde 3500 membres. En 1955, l'Église adventiste mondialement a atteint la barre de 1 million de membres dans le monde entier. Et 60 ans plus tard, maintenant, en 2015, il y a 18,5 millions de membres dans le monde. On peut se réjouir du progrès colossal de l'Église un peu partout dans le monde, et il reste fort peu de pays où l'Église n'est pas présente. Depuis 10 ans, il y a plus d'un million de membres qui s'ajoutent chaque année. Ce qui veut dire que chaque heure, il s'ajoute 125 personnes à l'Église mondiale. Ça, c'est encourageant. Mais quand on regarde la perspective sous un angle encore plus large, on se rend compte que dans le monde, les chrétiens, sans faire la distinction de leur dénomination, qu'ils soient pratiquants ou pas, tous les chrétiens comptés ne représentent qu'un tiers de la population mondiale. Aujourd'hui, on évalue environ que 2,4% de tous les missionnaires de toutes les églises chrétiennes, seulement 2,4% d'entre eux, sont dans les pays du monde où on n'a pas accès à l'Évangile et où il n'y a pas encore de témoins de l'Évangile. Ce qui veut dire que les 90% du reste sont tous dans des territoires où il y a déjà des chrétiens, où l'Évangile est disponible. Et on se dit, mais est-ce qu'on a envoyé les missionnaires au bon endroit ? On évalue aujourd'hui qu'il reste encore dans le monde 16 000 groupes ethniques qui n'ont absolument aucun contact avec l'Évangile. On évalue à 2000 les langues dans le monde dans lesquelles pas un mot de la parole de Dieu n'a encore été traduit. Il y a encore une mission à accomplir. Et maintenant, de cette grande perspective large et mondiale, je redescends à une perspective beaucoup plus étroite, ici, dans notre ville, ici, où nous sommes. Sans même faire la distinction du clocher sous lequel ils se réunissent, combien y a-t-il de personnes qui, chaque semaine, vont rendre un culte à Dieu ? Combien ? Une minorité, vous le savez bien. C'est dire que dans le monde, comme dans notre petit monde à nous, la tâche est encore colossale. Est-ce que nous avons assez d'essence pour accomplir ce que le Seigneur a placé comme mission devant nous ? Et il y a un équilibre à trouver dans l'utilisation de notre essence. Parce que d'un côté, il faut de l'essence pour accomplir la mission, mais d'un autre côté, il faut aussi de l'essence de cette énergie que Dieu nous donne, parce qu'il y a un travail à accomplir en nous et parmi nous. Et cependant, cet équilibre n'est pas facile à trouver. Je pense à un article que Russell Staples, un des professeurs d'Andrews, avec qui j'avais pris des cours il y a déjà pas mal d'années, écrit un article dans le journal Ministry en 1997, et il explique qu'avec le temps, les institutions de l'Église ont passé beaucoup plus de temps et d'énergie à prendre soin des personnes de l'Église que des personnes qui sont hors de l'Église. Et par conséquent, avec le temps, on en va employer dans ces institutions de l'Église beaucoup plus d'énergie à soigner ceux qui sont déjà dans l'Église qu'à soigner ceux qui ne sont pas encore dans l'Église et qui ont besoin. C'est dire qu'avec le temps, il y a eu comme un déplacement des priorités pour se soigner soi davantage que de soigner ceux du dehors. Autrement dit, plus d'emphase sur nous que sur la mission à accomplir. Alors est-ce que nous avons fait le plein d'essence pour remplir et notre mission et pour que le Seigneur accomplisse son œuvre en nous? Est-ce que vous avez fait le plein d'essence avant de traverser les zones désertiques de notre vie personnelle ou de l'histoire du monde? Parce que nous savons que nous avons devant nous des déserts qui seront peut-être fatales pour certains d'entre nous. J'aimerais simplement ce matin reprendre quelques illustrations bibliques que vous connaissez bien, qui sont reliées avec certains disciples qui ont fait le plein d'essence parce qu'ils en avaient besoin. Le premier exemple que j'aimerais mentionner se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10, cette histoire que vous connaissez très bien, où l'on retrouve Jésus invité chez Marthe et Marie. Et vous vous souvenez, Marthe est préoccupée à bien recevoir Jésus et Marie est occupée à bien écouter Jésus. Elle est assise, elle boit les paroles de Jésus. Et Marthe va dans tous les sens pour préparer le repas. Et vous vous souvenez qu'il y a un petit incident, il y a Marthe qui s'énerve et qui va dire à Jésus, « Mais écoute, moi je suis toute seule à faire le travail, envoie donc cette paresseuse de Marie pour venir me donner un coup de main. » Et Jésus va donner une réponse surprenante à Marthe et va dire, « Écoute, l'essentiel dans toute cette affaire, c'est Marie qui l'a choisie. Cette bonne part qu'elle a choisie ne lui sera pas ôtée. » C'est le verset 42. Marie était là en train de faire le plein de la parole de Jésus. C'est toute la différence finalement entre le fond et la forme. Marthe était occupée à polir la forme, Marie était occupée à absorber tout ce qui est fondamental. Et Jésus va mettre l'emphase sur cette démarche-là, faire le plein de la parole de Dieu. Alors, je vous pose la question, combien d'entre nous font le plein de la parole de Dieu chaque matin? Combien d'entre nous font le plein de la parole de Dieu? Combien d'entre nous ne font presque rien peut-être dans leur maison, pensant que c'est à l'église et à l'école de faire le plein d'essence pour leurs enfants, pensant que puisqu'ils sont dans une famille chrétienne, ça roule et ça va tout seul? Combien d'entre nous pensent que les choses se passent ainsi? Combien d'entre nous seraient capables de sortir de leur mémoire 4 ou 5 textes seulement pour appuyer sur les Écritures ce qu'ils croient sur des sujets fort simples, le salut, le retour de Jésus, ou sur des sujets qu'ils ne croient pas, la prédestination, ou d'autres choses que la Bible enseigne sur les morts? Êtes-vous capable de trouver dans les Écritures par cœur quelques textes pour aider quelqu'un qui a besoin de voir quelle est la vérité biblique? Est-ce que vous avez fait le plein de ces choses pour pouvoir les transmettre et accomplir la mission? Avez-vous assez d'essence? Un autre exemple me vient à l'esprit dans le livre de Daniel au chapitre 6. Livre de Daniel au chapitre 6. Vous vous souvenez que Daniel est en une mauvaise posture parce qu'il faut adorer le roi, a-t-on décrété. Et lui, adorer un homme, il n'en est pas question. C'est Dieu qu'on adore. Point. Alors vous vous souvenez ce qui est écrit au verset 10. Livre de Daniel, chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Daniel, dans la situation où il est, va faire le plein 3 fois par jour. Et je suis impressionné parce que je me pose la question, est-ce qu'on fait le plein 3 fois par jour, sentant la nécessité d'être chargé de cette essence divine? Le plein 3 fois par jour. Et même si les circonstances changent, incroyable, Daniel est au rendez-vous, comme d'habitude. Il fait le plein dans la prière, dans le contact avec Dieu. Alors, je me pose la question, votre prière, votre vie de prière, est-ce qu'elle est devenue une récitation? La même récitation tous les matins, la même récitation toujours? Votre vie de prière, est-ce que c'est une liste de courses que vous envoyez au Seigneur en lui disant « J'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, amen. » Et puis, est-ce que c'est un rituel? Est-ce que votre vie de prière est limitée dans le temps? Parce que si vous priez 4 minutes ou 5 minutes, c'est le maximum parce que vous n'avez plus rien à lui dire. La récitation est finie. Est-ce que votre vie de prière ressemble à ça? Quand je lis les Écritures, je trouve des hommes et des femmes qui passent des heures en prière, qui passent des nuits en prière. Pas nécessairement tous les jours, mais qui sont capables de le faire parce qu'ils ont besoin de faire le plein et de se charger de ce que le Seigneur a à leur donner pour accomplir la mission. Ellen White, dans le premier volume des messages choisis à la page 121, a écrit ce texte que vous connaissez bien. C'est notre travail, par la confession, par l'humiliation, la repentance, la prière, de remplir les conditions par lesquelles Dieu a promis de nous accorder sa bénédiction. Un réveil ne viendra qu'en réponse à la prière. Alors, est-ce que nous avons fait le plein d'essence dans la prière? Dans une prière qui n'est pas la récitation, dans une prière qui est la communion avec Dieu. Je pense à un autre exemple dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 21. On retrouve dans cette page de l'Évangile les disciples un peu désabusés parce que Jésus a été mis à mort, Jésus est ressuscité, ils le savent, ils arrivent à peine à le croire, mais ils se retrouvent au bord du lac et la seule chose qu'ils savent faire, c'est aller pêcher. Et Pierre, qui est là avec quelques autres, dit à ses amis, « Allez, venez, on va pêcher. » Et ils partent. Ils partent en fin de journée, comme d'habitude, espérant pouvoir trouver la nuit un banc de poissons qu'ils vont attraper. Puis ils travaillent toute la nuit. Ils travaillent toute la nuit et le matin, ils n'ont rien dans leur barque. Je me demande si... En voyant les premières lueurs du jour et en se rendant compte que dans leur bateau, il y avait trois misérables poissons, je me demande si tout d'un coup, ça n'a pas fait clic dans leur esprit parce que c'était du déjà vu, cette affaire-là, vous comprenez? Ça leur était déjà arrivé, ça. Et quand ça leur était déjà arrivé, Jésus leur avait dit, « Jetez donc le filet en plein jour. » Et là, les bateaux étaient en train de couler tant ils avaient ramassé de poissons. Je me demande s'il n'y a pas eu dans leur esprit... Ce retour au passé, quelques années avant, où Jésus avait fait ça pour eux. Mais Jésus, vous comprenez, il n'est plus là. Alors, le jour se lève et il rentre, bredouille. C'est ce qui nous est raconté dans les premiers versets de Jean, chapitre 21. Et puis au bord de l'eau, il y a quelqu'un là qui a préparé le déjeuner. Il dit, vous avez attrapé quelque chose? Non, rien. Ben, jetez donc le filet du côté droit de la barque. Ok. Puis là encore, les bateaux sont en train de couler parce qu'on n'arrive pas à rentrer tous les poissons. Et là, tout d'un coup, ça fait tilt. Ça y est, ils ont mis les deux événements ensemble. Mais celui qui leur a dit de jeter le filet du côté droit, il leur avait déjà dit. Et il leur avait dit, à partir de maintenant... C'est plus du poisson que vous allez prendre. Vous serez des pêcheurs d'hommes. C'est qu'il l'avait oublié un peu. Et vous vous souvenez de la conversation qui va suivre. Jésus va les inviter à prendre le petit déjeuner. Ils vont apporter du poisson, mais Jésus avait déjà rôti du pain et du poisson pour eux. Ils vont prendre le déjeuner ensemble, un peu mal à l'aise, parce qu'ils savent que c'est Jésus. Et puis... Ils ne l'ont pas toujours honoré quand il a été en procès. Puis il y a cette conversation avec Pierre. Au fait, Pierre, m'aimes-tu? Aïe, 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 c'est pas ce qu'il fallait demander. Trois fois. Et vous vous souvenez comment Pierre va finalement dire à Jésus, écoute, je t'aime, mais je sais que j'arriverai pas à t'aimer comme je voudrais. Alors finalement, Jésus dit à Pierre, suis-moi maintenant. C'est ce qu'on trouve au verset 19. « Suis-moi et paie mes brebis. » Une autre manière de dire, « Je t'avais dit que tu serais pêcheur d'hommes. Alors maintenant, fais-le. » Là, en faisant ce déjeuner avec Jésus, les disciples sont en train de faire le plein d'essence. Le plein de ce qu'ils n'avaient pas, ce contact avec Jésus, le rassurant qu'en fait, leur amour pour Jésus est plein, mais qu'il va grandir au fur et à mesure qu'ils servent. Les disciples ont là fait le plein de cette communion avec Jésus. M'aimes-tu? Et quand tu m'aimeras de tout ton cœur, alors suis-moi. Parce que si tu me suis pour une autre raison, tu as perdu ton temps. Suis-moi. Ils ont fait le plein d'essence avec Jésus. avons-nous fait le plein d'essence de cette communion avec Jésus? Et je pense à un autre événement, un petit peu plus loin, sur la même page, dans ma Bible en tout cas, dans le premier chapitre du livre des Actes. Au verset 3, il est dit ceci. Actes chapitre 1, verset 3. Il est question de Jésus, il est dit après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Jésus va rester avec ses disciples pendant 40 jours. Et là, les disciples vont véritablement faire le plein, le super plein d'essence qu'ils n'ont peut-être pas fait alors qu'ils étaient avec Jésus avant sa mort. Et puis un jour, Jésus va leur donner des instructions. Il va être sur le mont des Oliviers et puis il va s'en aller, leur laissant une promesse. « Les amis, je serai avec vous tous les jours. Je m'en vais, mais je serai avec vous. » Et puis il est parti. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 835, je trouve ce paragraphe qui décrit très bien la situation. Lorsqu'ils revinrent à Jérusalem, on les considéra avec étonnement. On s'attendait, après le procès et la crucifixion du Christ, à les trouver abattus et honteux. Et leurs ennemis pensaient voir sur leur visage une expression de douleur et de défaite. Au lieu de cela, on apercevait sur eux que la joie et le triomphe. Leur visage resplendissait d'un bonheur qui n'était pas de la terre. Loin de se lamenter sur leurs espérances déçues, ils ne faisaient que louer et remercier Dieu, racontant avec joie les faits merveilleux de la résurrection du Christ et de son ascension au ciel. Et beaucoup de personnes acceptaient leur témoignage. Ils ont fait le plein avec Jésus. Et quand ils sont partis seuls, ils n'étaient pas abattus, ils étaient souriants, ils étaient heureux, ils étaient confiants, ils étaient partis en vainqueurs et pour vaincre. Et les gens se sont demandé, mais qu'est-ce qui leur est arrivé à cela? Et un peu plus loin dans le livre des Actes, ce texte extraordinaire au chapitre 4 où il est dit, ils reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus. Parce que Jésus, lui, il avait le plein d'essence en permanence. Les disciples, souvent, se retrouvaient au moment où on arrive dans la réserve et qu'il y a la petite lampe qui s'allume. Alors Jésus les amenait et leur faisait le plein. Et puis je pense que nous aurons besoin souvent de venir faire le plein, comme les disciples. Le plein au pied de la croix, et le plein devant le tombeau vide. Le plein pour remettre tous nos fardeaux à Jésus et pour bénéficier de sa résurrection. Et il y a encore un autre événement qui me vient à l'esprit, encore dans ce même chapitre du livre des Actes. Quelques versets plus loin, verset 8, vous connaissez cette phrase. Il est dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a promis de donner son Saint-Esprit. Il a promis de faire le plein d'essence. Pendant mon voyage, cet été, je me suis rendu compte d'un travers que j'ai. Vous savez, il y a des stations-service où c'est marqué « On vous sert ». Ça veut dire que c'est pas toi qui prends la pompe et qui te sert. Il y a quelqu'un qui vient, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez, qui le fait. Quand je vois ça, je passe et je vais à la station suivante qui est self-service. Je ne sais pas pourquoi je préfère me servir moi-même. Ben, c'est peut-être parce qu'après on vous nettoie le pare-brise, on vous nettoie ceci, puis on attend petite pièce. Non, je me sers, je me débrouille, je m'en vais. C'est un travers parce que quand on a affaire au Seigneur, il n'y a que des stations où on nous sert. C'est le Seigneur qui fait le plein. Et il ne faut pas dans ma vie chrétienne que je tombe dans le travers que j'ai sur la route de n'aller dans les stations que où je me sers moi-même. Parce qu'en réalité, Dieu veut me servir et se servir de moi. Dans le livre « Les événements des derniers jours » à la page 194, je trouve ce paragraphe. Nous ne pouvons pas nous servir du Saint-Esprit. C'est lui qui doit se servir de nous. Mais il en est beaucoup qui refusent de se soumettre à ce principe. Ils veulent garder leur autonomie. C'est pourquoi ils ne reçoivent pas le don céleste. C'est seulement à ceux qui espèrent humblement en Dieu, qui recherchent son conseil et sa grâce, que l'Esprit est donné. Alors le Seigneur nous a fait la promesse de faire le plein pour chacun d'entre nous autant qu'il peut, de nous donner tout ce dont nous avons besoin, mais c'est sûr que pour que le Seigneur puisse remplir notre réservoir, il faudra que nous l'ayons vidé de tout ce que nous y avons mis et qui ne marche pas. Nous avons encore un long chemin à faire. Peu importe sa longueur, nous avons encore un long chemin à accomplir. Que ce soit pour notre mission ou que ce soit pour cette transformation dont nous sentons avoir tellement, tellement besoin. Il y a encore tellement à faire et je voudrais que le Seigneur le fasse plus et plus vite. Et je me rends compte que la pluie de la première saison n'a pas encore produit tous les fruits de l'Esprit que je voudrais. Et puis pour remplir ma mission, j'ai l'impression de me trouver de temps en temps, souvent, trop souvent, dans la situation où la petite lumière de la réserve s'allume, parce que je suis presque à vide. Alors je vous propose d'aller faire le plein à la prochaine station. Et à cette station, c'est marqué « On vous sert ». Et c'est Jésus qui le fait.